Vous êtes à l'écoute de Radio Agora.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes ce matin sur Radio Agora, en compagnie de la promo de Master 2 de journalisme culturel de l'Université Paris-Nanterre. On vous a concocté une heure d'émission bien remplie. On va parler théâtre, création contemporaine et jeunesse. On s'interroge ce matin. Comment devient-on comédien ? Au sommaire de cette émission, on ira à la rencontre de Nicolas Verdier, ancien membre de l'Académie de la Comédie Française. Nous l'avons découvert dans le succès de la fin d'année 2021, mais quelle comédie ! Il nous raconte son parcours. Nos journalistes se sont immergés dans des cours de théâtre, l'une dans un cours d'improvisation et une autre dans un cours d'art dramatique. Nous ferons ensuite un petit point historique. De quand datent les premières écoles de théâtre ? La méthode Stanislavski, ça parle à tout le monde, n'est-ce pas ? Non ? Un professeur de théâtre a accepté d'éclaircir la question. Comment se passent les concours d'entrée d'une école nationale de théâtre ? À quoi ressemble une journée de cours dans une telle école ? Ambre Germain Cartron, élève à la célèbre école de théâtre l'École du Nord, a répondu aux questions d'une de nos journalistes. Au programme aussi, les festivals de théâtre, une porte d'entrée encore méconnue dans le monde des pros. Faire carrière dans le théâtre sans passer par les écoles traditionnelles, est-ce un parcours du combattant ? Les débuts dans un théâtre plus anonyme, celui des marionnettes. Et pour finir, quel regard les professeurs de théâtre amateurs portent sur l'apprentissage du métier de comédien ? Comment déceler celui ou celle qui deviendra un acteur pro ? Beau programme sur Radio Agora. Sans plus attendre, partons à la rencontre de l'acteur Nicolas Verdier, un ancien de l'Académie de la Comédie Française qu'Émilie Gilles a rencontré.
Après le Conservatoire du Havre et l'Académie de l'Union à Limoges, Nicolas Verdier a intégré l'Académie de la Comédie Française. Depuis 2014, la maison de Molière est administrée par l'acteur, metteur en scène et décorateur scénographe Éric Ruff, qui est également sociétaire depuis 1998. Nicolas Verdier nous explique pourquoi il a souhaité intégrer l'Académie et ce que ça lui a apporté.
J'ai passé l'audition de l'Académie parce que je trouve que j'ai rencontré Éric Ruff dans le train et c'était une expérience qui m'attirait parce que je suis aussi acteur et scénographe et dans la maison de la Comédie Française, c'est l'opportunité de découvrir beaucoup de métiers différents et de se frotter à un rythme très soutenu aux côtés de grands artistes, donc c'est intéressant pour moi de connaître ça. Jusque-là, les portes ouvertes par l'Académie, ce sont, je trouve, avant tout des rencontres artistiques. Je pense bien sûr à Christian Heck, avec qui j'aurai la chance de jouer un spectacle le mois prochain, et Serge Bagdasarian qui m'aide pour un spectacle que je suis en train de monter avec lui.
On peut dire que l'Académie lui a ouvert de nombreuses portes. Il a d'ailleurs joué récemment dans le spectacle musical « Mais quelle comédie ?» à la Comédie Française. Il nous en dit un peu plus sur cette pièce qui mêle fiction et réalité et sur son rôle.
C'est justement tout le propos du spectacle. On est entre réalité et fiction, pas de nom de personnage. Chaque acteur joue un peu sa place dans la troupe. Et en ce qui me concerne à l'Académie, j'interviens finalement assez peu directement dans le spectacle, je suis surtout à la clarinette et quand j'interviens, j'évoque des souvenirs, des sensations. Par exemple, je dis que je me souviens de trois théâtres et de 931 levées de rideaux, ce qui représente l'activité de la Comédie Française en un an. Ce sont des phrases qui m'ont marqué. Je ne partage pas directement mon histoire personnelle plus que ça.
En plus de son rôle dans Mais quelle comédie, Nicolas Verdier est également à l'affiche de deux autres pièces, une de Christian Heck et une autre de Serge Bagdasarian. Il nous détaille en quelques mots ces deux projets.
Avec Christian Heck, le spectacle s'appelle Le Voyage de Gulliver, qui va s'agir de jouer des personnages marionnettes hybrides, puisqu'on aura juste notre visage découvert et le reste sera des corps de 50 cm qu'on devra manipuler. Avec Serge Bagdasarian, il s'agit d'un seul en scène de clown et j'interprète Vendredi, le compagnon de Robinson Crusoe, et j'explore les prémices de ce que c'est qu'une rencontre avec une personne, le lien qu'on tisse avec autrui. Je construis un monde inventé avec Serge autour de ce personnage.
L'Académie de la Comédie Française est sans aucun doute l'occasion de nombreuses rencontres et opportunités pour un aspirant comédien.
Merci Émilie. Mais que se passe-t-il derrière les portes closes d'une école de théâtre ? Comment se déroule concrètement un cours ? Pour répondre à ces questions, Floriane Gitenet a infiltré le temps d'une après-midi le cours d'art dramatique d'Evin Saint-Paul.
Alors maintenant... Waouh ! Allez,
ok.
Je suis actrice depuis toujours, depuis l'âge de 15-16 ans. Au bout d'un certain temps, j'ai voulu transmettre tout ce qu'on m'avait donné.
L'homme qui va mourir, l'homme qu'ils prennent pour Fabiano, ce n'est pas Fabiano.
Ce n'est pas Fabiano.
Mais non.
Qui est-ce donc?
C'est l'autre.
Ce n'est pas articulé. Est-ce donc? Mais il n'y a pas d'articulation, mon chou. C'est du Hugo. Bon, le reste aussi, il faut articuler un petit chouïa quand même. Qu'est-ce qu'il faut ? Beaucoup travailler. Être doué, avoir des dons au départ, mais c'est pas suffisant du tout, du tout.
Mais qui est-ce donc ?
C'est l'autre !
Qui ça, l'autre ?
Non, mais l'autre, c'est l'autre !
C'est l'autre !
Mais je m'en fous ! Oui, on s'en fout. Ben, les autres peuvent crever. Allez, hein ? Alors ?
Ce qu'on apprend, c'est faire cette recherche sur le personnage, trouver la justesse, et c'est un travail de longue haleine.
C'est l'autre !
Qui
non,
ça ?
Non, c'est pas assez sincère, là. Pas de pathos, pas de pathos, des choses vraies, des choses vraies. Qui ça l'autre ?
On a cours de théâtre, art dramatique avec Eva. On a des cours d'impro, de danse, de chant et de kung-fu.
Et du coup, je vais lui dire, et tu la rattrapes par les cheveux. Par les cheveux, tu tires et tu la fais tomber au sol. Il faut savoir tomber, il faut savoir faire tous les mouvements possibles, imaginables, être d'une grande souplesse. Il y a le corps est très important.
C'est un bon premier travail. Vous trouvez pas ?
Non. Ok, bah, je suis ravie d'avoir vu des nouvelles choses et continuons, hein ? Continuons.
Merci à toi, Floriane, pour cette immersion. On fait un petit point historique maintenant. De quand datent les premières écoles de théâtre ? Jules s'est penché sur le sujet.
Il en existe maintenant 10 en France, des prestigieuses mais aussi des plus confidentielles. L'offre de la formation théâtrale n'a peut-être jamais été aussi importante qu'aujourd'hui. Comment en est-on arrivé là ? Pendant longtemps, on considérait qu'il n'y avait pas besoin de formation particulière pour être acteur, et qu'il suffisait juste de captiver les foules par notre jeu. Pire encore, les comédiens n'ont commencé à recevoir un statut professionnel qu'au XVIe siècle, en Italie. Un célèbre dicton voudrait que ce soit en forgeant que l'on devienne forgeron. C'est peu ou prou comme ça qu'à travers l'histoire, des centaines d'acteurs se sont formés en conditions réelles au sein d'une compagnie le plus souvent itinérante. Ça n'est qu'en 1786 qu'est créée en France la première école de théâtre, ou plutôt la première classe d'art dramatique, ouverte au sein de l'école royale de chant et de déclamation. Une tentative timide, formant un faible nombre de chanceux aux rudiments de l'art dramaturgique, mais pas beaucoup plus. Le train de vie de l'établissement, fastidieux, va même lui causer quelques remontrances peu avant la Révolution. Mais alors, comment va s'imposer l'enseignement dramatique ? Tout va s'accélérer et se structurer au cours du XIXe siècle, et notamment sur sa fin. L'art théâtral va en effet s'embourgeoiser. Longtemps art des cours, des places publiques et des classes populaires, il va être accaparé par les classes dominantes. Elles ne veulent que le meilleur, les meilleurs acteurs, mais aussi les meilleurs dramaturges et les meilleurs scénographes. C'est la naissance de grandes institutions, de l'American Academy of Dramatic Arts à New York, en passant par la Royal Academy of Dramatic Arts à Londres. De nouvelles s'ouvriront au XXe siècle, notamment sous l'impulsion de la multiplication des auteurs et des courants artistiques. Une façon de conditionner ceux amenés à interpréter leurs œuvres. Aujourd'hui, la formation théâtrale est partout en France, de l'école primaire jusqu'aux études supérieures. De quoi rendre Molière très fier.
Merci Jules. Pour devenir comédien, il n'y a pas que les écoles, mais aussi des méthodes d'acting. On reste dans l'histoire du théâtre avec Noé Mégel, qui va nous parler de l'un des premiers systèmes qui s'intéresse à la technique de jeu de l'acteur, la méthode Stanislavski.
Si tu veux avoir l'air triste, il faut penser à quelque chose de triste. Un simple souvenir douloureux suffirait à embuer les yeux du comédien et ainsi à émouvoir le public. Cette idée préconçue du jeu d'acteur a une base théorique, la méthode Stanislavski. Konstantin Stanislavski est un metteur en scène russe, né en 1863 et mort en 1938. Il est connu pour avoir créé une méthode qui porte son nom dans l'ouvrage « La formation de l'acteur » publié en 1936. Jocelyn Müller, fondateur de l'école de théâtre Studio Müller, l'utilise dans ses cours.
La méthode Stanislavski, elle a été développée donc au début du XXe siècle. On pourrait dire qu'elle concerne tous les éléments du corps, à la fois les émotions, le corps, la pensée et les comportements physiques. Une des incompréhensions qui est faite sur la méthode Stanislavski, c'est de croire que l'objectif final de l'acteur est de ressentir les émotions, alors qu'en réalité, l'objectif final de l'acteur est de faire en sorte que le public ressente les émotions. L'acteur qui pense qu'en ressentant de la joie ou de la colère, le public va ressentir la joie ou de la colère, c'est une équation qui est fausse. Donc il y a une manipulation de l'acteur sur le spectateur pour que le spectateur ressente l'émotion alors que lui-même ne la ressent pas forcément. Pour que le public ressente les émotions, il faut que l'acteur construise des signes extérieurs que le public va percevoir, c'est-à-dire des signes visuels, des signes physiques, des signes auditifs, et à partir de ces signes, le public va être touché.
L'objectif de la méthode est le réalisme psychologique du personnage. À l'époque de sa formulation, un comédien cherchait plutôt à exprimer des grandes idées universelles, par un surjeu. Avant Stanislavski, on s'occupait surtout de la technique externe, comme le mouvement physique et les paroles, et pas tellement de la technique interne liée aux émotions et aux pensées. C'est une vraie révolution. Arthur Radiguet, tout juste sorti des 3 ans de formation du studio Muller, l'a bien compris.
Une fois qu'on se rend compte que la réussite de la représentation ne dépend pas de notre état émotionnel, ce qu'on ne peut pas répéter en fait tous les soirs, on ne peut pas être triste tous les soirs 365 jours par an, et une fois qu'on comprend qu'en fait rendre le public triste est faisable sans ressentir de la tristesse, bah c'est vachement soulageant en fait.
Aujourd'hui, nous sommes toujours dans la philosophie de Stanislavski. Un bon acteur en 2021 est un acteur crédible, capable de nous émouvoir, mais donc sans pour autant être ému.
Merci Noé d'avoir éclairé nos lanternes. À présent, direction Lille avec Anaïs Daruy, qui a rencontré Ambre Germain Cartron, étudiante depuis septembre à l'École du Nord, une école supérieure d'art dramatique. Elle nous raconte son parcours pour en arriver là.
Après un passage en licence d'art du spectacle et au Conservatoire de Rennes, Ambre Germain Cartron s'est lancée dans les concours des écoles nationales de théâtre. Mais rentrer dans ce genre de formation n'est pas toujours simple. Elle a tenté plusieurs concours, tels que les SAD de Paris, les cours Florent, la Comédie de Saint-Étienne ou encore le TNB de Rennes. Se décrivant elle-même avec autodérision comme une galérienne, elle nous parle de l'importance de choisir des écoles qui nous tiennent à cœur.
Je voulais une école nationale, j'ai pas tenté celle dont je n'avais pas envie, j'ai tenté que celle dont j'avais vraiment envie. J'ai pas tenté certaines écoles, pas parce que je pense qu'elles sont pas bonnes, parce que je sais rien, j'ai aucune connaissance, mais parce que dans la manière dont elles se présentaient, c'était pas peut-être les endroits géographiques où elles étaient, c'était pas les endroits qui résonnaient en moi. Et je me suis dit que si j'étais pas sûre à 100% de le vouloir, ils le verraient et je serais pas prise.
Plusieurs mois plus tard, elle prend du recul sur tous ses concours passés de l'année dernière. Elle nous explique que son expérience associative a joué un rôle particulier dans sa manière d'appréhender le théâtre.
Elles m'ont aidé dans le sens où elles m'ont permis d'expérimenter. C'est une évidence, mais aussi qu'elles m'ont donné de la confiance en moi, qu'elles m'ont permis de penser le théâtre, mon théâtre et le théâtre des autres, ce que j'aimais, ce que je ne comprenais pas encore et ce que je n'aimais pas. Elles m'ont aussi apporté, bien sûr, des rencontres de gens dont la pensée du théâtre ou la pratique du théâtre, ou même artistique, font partie de qui je suis. Je ne serais pas la même personne, c'est une évidence, sans des rencontres. Sur les rencontres que j'ai fait à Tétroit, au collectif Épicène ou à l'Arène Théâtre.
En bref, après avoir tenté 7 concours différents, Ambre fait à présent partie de la nouvelle promotion de l'École du Nord. Alors, avis à tous ceux qui souhaiteraient devenir comédien ou comédienne, la clé est peut-être de combiner ces expériences associatives et professionnelles.
Merci Anaïs. Une courte pause musicale à présent avec le classique Blues du Businessman, interprété par Claude Dubois, qui aurait voulu être un artiste.
J'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours, je change souvent de secrétaire. J'ai mon bureau en haut d'une tour, d'où je vois la ville à l'envers, d'où je contrôle mon univers. Je pense la moitié de ma vie en l'air, entre New York et Singapour, je voyage toujours en première. J'ai ma résidence secondaire dans tous les Hilton de la terre. Je peux pas supporter la misère.
Moi, es-tu heureux?
Je suis pas heureux, mais j'en ai l'air. J'ai perdu le sens des affaires. J'ai réussi, j'en suis fier. Au fond, je n'ai qu'un seul regret. Je fais pas ce que j'aurais voulu faire.
Quand l'avion se pose sur la piste,
j'aurais voulu être un acteur.
Après cette pause musicale, on aborde à présent un sujet absolument d'actualité. Le mouvement MeToo dans le théâtre. La parole des femmes se libère dans tous les milieux. Swally Guillemin nous en parle.
Non, c'est non. Même sur un plateau. On pouvait lire ce message sur des pancartes lors du sit-in devant les cours Florent à Paris. On a beau être au XXIe siècle, parmi les difficultés auxquelles sont confrontées les jeunes femmes qui souhaitent devenir comédiennes, il y a, encore et toujours, les violences sexistes et sexuelles. Le mouvement MeToo Théâtre, initié en octobre dernier sur les réseaux sociaux, et ses milliers de témoignages expriment un ras-le-bol général. Ils ont permis de lever le rideau sur les violences dont sont victimes les femmes dans les écoles de théâtre et au début de leur carrière. La même histoire se répète toujours. Des femmes, bien souvent très jeunes, à l'école ou entrant dans le métier, sont agressées par des figures d'autorité, professeurs ou metteurs en scène. À l'occasion de ce mouvement, une tribune signée par près de 1500 professionnels, dont Adèle Haenel et Julie Gayet, a été publiée dans la presse. Elle appelle à une enquête dans le milieu et plus de mesures dans les écoles. Nous avons tout appris, sauf à dire non, énonce-t-elle. Comme le dit Colline Lepage, l'une des trop nombreuses victimes, on choisit un art de la parole, mais ce qu'on apprend, c'est à se taire. Ce mouvement MeToo nous montre l'importance et l'urgence de repenser tout l'écosystème du théâtre pour le débarrasser de sa culture sexiste. Plusieurs rassemblements ont été organisés à Paris et dans toute la France. On pouvait lire sur les pancartes « Il m'a violée, vous l'applaudissez » ou encore « La scène de demain sera saine ou ne sera pas ». Seul l'avenir nous le dira.
Merci Swally. Réalité complexe du monde du théâtre. Vaste domaine où se croisent des gens différents. Nina, par exemple, a fait les conservatoires d'arrondissement pendant 4 ans. Pourtant, elle a contourné ce parcours traditionnel et a fondé avec 3 amis son propre collectif. Du texte au costume en passant par la mise en scène et l'administration, ils ont tout fait. Leur pièce Chantal Chantal s'est jouée dans plusieurs salles. Et ils sont actuellement en train de la retravailler pour pouvoir la jouer encore à l'issue de leur relecture. Chloé Bergeret est allée à sa rencontre.
Donc on a créé un collectif bien avant le Covid, en 2019. Donc on est 4, le collectif s'appelle le collectif Roue Libre. Et on a eu l'idée au début, donc à plusieurs, on marche vraiment en collectif du coup. Et on a eu l'idée de juste, on voulait travailler avec des gens qu'on aime et avec qui il y a à peu près la même vision du théâtre, ou alors avec qui on aimait vraiment travailler sans se prendre la tête. On s'est connus au lycée, puis en conservatoire. Enfin, tous les quatre, vraiment, le côté quatuor s'est créé dans ces fameux conservatoires d'arrondissement. Et on a voulu, en parallèle de la formation ou pendant la formation, se mettre tous les quatre et continuer à travailler plus intensément ensemble. Et c'est parti de pas forcément une idée, une pièce ou un thème en particulier. C'est juste vraiment le désir de travailler tous les quatre ensemble, en collectif, et de voir qu'est-ce qui pouvait découler de ça, de cette structure à quatre. Cette année, j'ai fait le choix de ne pas faire de formation, de ne pas postuler à des, par exemple, des écoles nationales ou d'autres formations parallèles, annexes, qui y ressemblent, pour justement me consacrer plutôt à des créations collectives, qu'elles soient déjà implantées ou pas du tout comme mon collectif qui est encore un peu assez émergent. Mais c'est un choix qui est périlleux parce que c'est compliqué d'aller plus loin, de trouver des dates, de se faire payer de tout ce qu'on connaît, et c'est très épuisant, et on peut parfois se dire pourquoi j'ai fait ce choix. Et à la fois quand on est dedans, je me rappelle de la création de la pièce, c'était tellement stimulant et tellement enrichissant de travailler de cette manière-là, de juste se retrouver tous les quatre pendant une après-midi, une semaine, un mois, et juste de discuter, de faire des impros, de se lire des textes, de chanter, de faire des moments vraiment de cœur qui vont peut-être parfois s'avorter totalement et qui n'ont pas forcément de but précis, mais à la fin ça fait un mode de travail qui donne tellement envie de continuer justement et de persévérer là-dedans, que je pense que j'ai jamais été autant épanouie ou heureuse de faire ça, même si ça met beaucoup de temps. En fait, c'est ça aussi, c'est que ça met beaucoup de temps, ça me demande beaucoup d'énergie.
Nina se le demande aussi, mais comment avoir de la visibilité quand on est de jeunes comédiens? De plus en plus de festivals de théâtre réservés aux étudiants voient le jour. J'ai rencontré Gabriel Abrossier de la compagnie Tout le monde n'est pas normal. Leur spectacle a remporté les deux prix décernés au festival Nanterre-sur-Seine.
Les Reteleux, Actea, Nanterre-sur-Seine, Entrée dans l'arène, le festival international de théâtre francophone de Piano di Sorrento. Quelques noms parmi tous les festivals mettant le théâtre étudiant à l'honneur. Gabriel Abrossier nous raconte pourquoi sa compagnie a choisi Nanterre-sur-Seine.
Moi, j'avais la chance d'avoir des amis qui avaient déjà joué dedans et j'avais des très bons échos de ce que c'était. Et je trouvais ça, on trouvait ça très intéressant d'avoir justement un public, enfin une visée avec un public peut-être un peu plus jeune, avec une possibilité qui donne en fait un spectre moins élitiste. Si on fait un festival qui va jouer dans un grand théâtre parisien, on sait qu'on n'a pas du tout le même public qu'un truc étudiant, avec des gens qui sont peut-être plus intéressés et plus motivés.
Le prix des étudiants et le grand prix du jury. Voici les deux distinctions discernées à l'issue de chaque édition de Nanterre-sur-Seine. Mais quel est l'impact d'une victoire lors d'un festival étudiant ?
Le premier impact, je pense, c'est psychologique. C'est la légitimité à faire ce travail. Ça a créé, en fait, dans notre dossier de presse, déjà, on peut le marquer. Et ça donne un peu, ça ouvre le champ des possibles, ça donne un gage de qualité, en fait. Et du coup, je crois que ça nous a fait quand même venir pas mal de monde, même à la représentation de Nanterre. Des gens qui sont venus nous voir d'un théâtre à Avignon pour cet été. Je pense qu'ils sont venus parce qu'ils ont vu qu'on était les gagnants et que du coup, on les a contactés et ça leur a donné le pouvoir de faire ça. Et d'ailleurs, ça a marché. On va sûrement jouer à Lyon avec cet été. Donc c'est grâce à ça.
Participer à un festival de théâtre étudiant peut être un tremplin pour une arrivée retentissante dans la secte très fermée des comédiens professionnels.
Le théâtre, c'est souvent d'abord un texte, puis un comédien qui l'incarne. Parfois, c'est surtout le corps qui est mis à l'honneur. C'est le cas du mime et du théâtre gestuel. Marine Jamet a interrogé pour nous une jeune comédienne qui vient de terminer ses études d'art du geste.
Pour Esther Val, comédienne de 21 ans, l'apprentissage du théâtre remonte à l'enfance. C'est à 16 ans, quand elle arrive à l'école du jeu, qu'elle suit son premier cours de théâtre gestuel. C'est pour elle une révélation.
Pour moi, c'était assez bouleversant parce que j'avais jamais vraiment fait de sport, vraiment étant enfant. J'avais pas un rapport à mon corps très développé. Et découvrir ça, ça m'a permis de connaître beaucoup plus mon corps, de le travailler en fait comme un instrument pour qu'il soit de plus en plus ouvert, de plus en plus réceptif, de plus en plus vivant sur scène.
Forte de cette nouvelle découverte, elle suit alors une formation d'art du mime et du geste et rejoint la compagnie Hippocampe, spécialisée dans le mime corporel. Elle décrit une technique de jeu nouvelle et un vrai exercice de maîtrise du corps.
Alors si je prends l'exemple du mime, parce que c'est assez parlant, c'est une technique qui a été créée dans les années 50-60 par Étienne Decroux, et où c'est vraiment une technique physique pour le comédien, où on va en fait articuler tout le corps et faire des sortes de gammes, comme les musiciens, avec notre corps. C'est-à-dire on va apprendre à bouger que la tête, que le buste, que le bassin, que les jambes. Et il y a plein d'exercices comme ça, qu'on appelle des gammes, devant un miroir, comme un musicien pourrait le faire au piano ou à la guitare. Voilà.
Mais ces techniques ne lui servent pas que pour le mime. Ce rapport au corps nouveau nourrit son jeu de manière beaucoup plus globale.
Pour moi, c'est devenu vraiment la base, le cœur de tout travail de jeu, que ce soit même au cinéma, même sur du théâtre plus classique. C'est de là que j'aime partir de ce travail physique qui est à la fois, par exemple pour le théâtre gestuel, il y a des côtés très pragmatiques de, comment dire, comme pour la danse, quoi, les appuis, l'équilibre, les choses comme ça. Et puis à la fois, il y a la dimension énergétique de conscience, de perception de mon corps qui est pour moi la base de la présence et de être présente à moi-même pour irradier, exprimer quelque chose, que ce soit pour un public ou pour une caméra.
Actuellement, Esther Valle prépare Louise à l'Effolle, pièce écrite par Leslie Kaplan. Cette fois metteuse en scène, elle décrit que sa formation gestuelle influence aussi sa direction des comédiens.
Alors on a commencé par faire des chorégraphies. Moi, j'essaye de les diriger en passant beaucoup par le mouvement et par le corps, donc trouver des états corporels, des postures, des mouvements dans lesquels ils vont dire le texte. J'essaye de pas passer par des choses psychologiques de pourquoi, qui est le personnage, comment, mais de trouver ça directement au plateau, quoi. Et de passer par le mouvement et les sensations pour aussi dire le texte et pour trouver le personnage.
Le témoignage d'Esther Valle nous montre qu'à l'aide du mime ou du théâtre gestuel, les comédiens peuvent mieux prendre conscience de leur corps pour, à terme, mieux maîtriser leurs gestes et approfondir leur jeu.
Quand on parle de comédiens, on pense d'abord au théâtre classique. Or, le théâtre de marionnettes existe aussi. Roxane Le Guest s'est penchée sur la question et elle nous explique comment devenir acteur marionnettiste.
En France, il n'existe pas 150 façons de devenir marionnettiste. L'ESNAM, l'École nationale supérieure des arts de la marionnette, située à Charleville-Mézières dans les Ardennes, est l'unique école de l'Hexagone à proposer une telle formation. Elle fait partie du projet de l'Institut international de la marionnette qui a été créé en 1981. Alexandra Vuillet, la directrice de la formation, nous explique le processus pour intégrer l'école.
Déjà, il y a une première sélection qui s'effectue sur dossier, qui parle d'expérience artistique, selon des critères assez précis qui correspondent déjà un petit peu à ceux demandés par le DNSP. Étant donné que c'est une formation pour devenir acteur marionnettiste, il y a quand même un petit peu des prérequis liés aux arts plastiques ou aux arts visuels. Puis après, il y a une deuxième étape qui est le concours. Donc là où on a une audition avec une scène à présenter. Et puis après, il y a une seconde sélection où là, les participants, participantes sont accompagnés lors d'un stage, qui sont des stages de jeux, mais aussi d'art plastique et de jeux avec marionnettes. Il y a une dernière épreuve finale qui est le petit exercice où les participants ont 2 jours pour fabriquer une petite forme selon un thème qui leur est donné. Ça peut être soit un bout de texte, ça peut être soit un morceau de poème, ça peut être une image, ça peut être un concept. Donc ça se passe en 3 étapes.
3 étapes conséquentes donc, mais nécessaires pour accéder à l'ESNAM. Alexandra Vuillet nous en dit un peu plus sur le profil des candidats recherchés par l'école.
D'avoir une sensibilité liée aux arts plastiques. Donc ça peut être aussi aux arts visuels, ça peut être la photo, ça peut être la peinture, ça peut être le dessin, ça peut être la sculpture. Je dirais que comme toute école d'art, on cherche avant tout des singularités, de l'audace et puis de la joie à jouer. Parce que le métier de comédien et de comédienne, c'est jouer et raconter des histoires. Et c'est ça qui est beau, raconter des histoires à du public, à des spectateurs et des spectatrices.
Suite à la formation, les étudiants obtiennent donc un diplôme national supérieur professionnel de comédien, spécialité acteur marionnettiste, un diplôme de niveau Bac plus 3, couplé à une licence art du spectacle, parcours art de la marionnette. L'ESNAM propose par ailleurs 2 dispositifs d'aide à l'insertion pour ces étudiants, que la directrice nous détaille.
On a 2 dispositifs d'aide à l'insertion. Il y en a un qui est plus fléché sur ce qu'on appelle la résidence tremplin, qui permet du coup à ces jeunes qui veulent monter leur compagnie et créer leur propre spectacle, de pouvoir venir en résidence dans les locaux de l'école pour créer leur propre spectacle. Un autre dispositif d'aide qui est l'aide à l'embauche, qui là du coup permet à d'autres compagnies qui embauchent les jeunes diplômés qui sortent de l'école dans les créations qui sont à venir. Et puis après, il y a la possibilité pour tout jeune de poursuivre ses études en master. Il y a un master recherche-création qui est possible, ou alors un master lié au métier d'accompagnement du spectacle.
Donc, si vous voulez devenir acteur marionnettiste, vous savez ce que vous devez faire, alors n'hésitez plus.
Merci Roxane. Après les marionnettes, faisons place à un peu d'improvisation. Léonie Dutrievoz a assisté à l'atelier d'impro des Impunis à l'Université Paris-Nanterre. Pas de texte écrit, pas de par cœur, seulement le corps, la voix et un peu d'imagination pour nous raconter une histoire.
Un samouraï, des faux proverbes, un alléluia et des noms de films, après quelques échauffements, les impunis sont prêts à monter sur scène. L'exercice du jour, le répondeur. Que vous soyez un ami, une compagne, une mère, un inconnu ou un mafieux, le principe est simple, se mettre dans la peau de qui vous voulez et laisser un message sur le répondeur d'une personne que vous imaginez. Pour superviser cet exercice, un homme, Camille Masclet. Ancien étudiant à l'université de Nanterre, aujourd'hui il met en scène et écrit des spectacles de stand-up. Il insiste alors sur 5 points à préparer pour une bonne improvisation, le contexte, les personnages, la problématique, les péripéties et le dénouement.
Quand vous montez sur scène, vous racontez une histoire. Vous nous racontez une histoire. Et vous vous racontez une histoire, d'accord? Donc vous devez nous intéresser. Allô? Louis? Alors, comme prévu, j'ai récupéré l'argent que t'as volé à la nana et je l'ai donné à tes ravisseurs. J'ai le petit et je l'emmène chez ta femme. T'inquiète pas, je gère de tout.
D'une soirée trop arrosée au kidnapping d'un enfant, d'une histoire d'argent au vol d'un rideau bleu, d'une forêt remplie de champignons à un interrogatoire pour trouver qui a mangé le dernier bout de pizza, l'atout principal d'une bonne improvisation est l'imagination, et elle est sans limite. C'est ce que nous rappelle Louise Lorenco, présidente de l'association.
Si t'arrives avec, par exemple, des questions sur scène en disant « Oui, comment ça va ?» Bah, ça aide pas à l'impro, alors que si t'arrives en disant « Ça va mal, là, on s'est fait cambrioler », y a déjà le début d'une histoire.
Face à la scène, le public ne s'empêche pas de rire, et c'est souvent ce qui est recherché en premier par les comédiens débutants. Mais d'après Camille Masclet, la joie n'est pas la seule émotion possible pour réussir à faire une bonne improvisation.
Pour moi, les règles pour réussir une bonne impro, ce serait de commencer à raconter une belle histoire. Donc faire des choses un peu jolies, poétiques, de jouer avec d'autres émotions que la joie.
Alors, si vous êtes prêt à dévoiler vos émotions sur scène, les impunis vous attendent tous les vendredis soirs au plateau 9 de la Maison de l'étudiant à l'Université de Nanterre.
Improvisateur professionnel, Jean-Marc Guillaume est membre de la compagnie d'improvisation E depuis 5 ans. À leur côté, ils présentent le spectacle Bio ou la vie improvisée d'un héros anonyme. Portrait d'un as de l'impro signé Marion Monin.
Jeune photographe et réalisateur, Jean-Marc Guillaume n'était jamais monté sur scène. Un ami lui propose de venir à des cours d'impro. Jean-Marc Guillaume accepte, comme ça. Il se lance dans un art totalement inconnu pour lui. Il découvre alors le jeu, la comédie, l'art du clown, le théâtre. Mais ce qui l'anime véritablement, c'est l'improvisation. Ce qu'il vit d'abord comme un loisir se transforme progressivement en passion. Une passion qui devient très vite un métier. Si Jean-Marc Guillaume est séduit par ce nouveau format, c'est qu'il lui apporte plus de liberté. Ce qu'il aime dans l'impro, c'est cette possibilité d'avoir plusieurs casquettes. Écrire une histoire, pouvoir en même temps l'interpréter et faire de la mise en scène spontanément sur un plateau. Aucune représentation ne se ressemble, chaque moment est unique. Sur scène, il peut non seulement inventer une nouvelle histoire avec différents personnages, mais aussi créer de nouveaux concepts. Pour lui, l'improvisation n'est pas un outil de travail pour le théâtre, mais une discipline à part entière. Membre actif de la compagnie d'improvisation E, Jean-Marc Guillaume aime décrire cette troupe avec tendresse et espièglerie, la qualifiant d'un savant mélange entre une bande de petits cons irrévérencieux et des explorateurs qui font de la recherche. Avec cette compagnie, il découvre de nouvelles approches de l'improvisation. Avoir une attitude enthousiaste pour permettre à l'autre de se sentir bien, de faire des propositions, de se tromper et de sauter dans l'imprévu. Une philosophie qui se retrouve également dans les cours d'improvisation que Jean-Marc Guillaume donne à ses élèves. Il revient aux essentiels, aux fondamentaux. Parce que ce qui est primordial en impro, c'est de toujours chercher à en apprendre plus, d'être curieux et de ne jamais se dire qu'on est expert en se reposant sur ses acquis. Il faut se réinventer sans cesse pour enrichir son art.
Devenir comédien, cela passe aussi par des ateliers amateurs. Dans le 15e arrondissement de Paris, le Théo Théâtre propose à des curieux et curieuses de tout âge de se prêter au jeu. L'objectif ? Donner un goût à la pratique théâtrale sans promesse de poursuite au sein du métier. Léonard Potier est parti à la rencontre de Pascal Contival, un professeur qui exerce dans ce lieu depuis une quinzaine d'années.
Les élèves l'adorent. Tout le monde au Théo Théâtre le connaît comme le prof aux rires et aux chemises extravagantes. Pascal Contival est avant tout un amoureux de la profession. Comédien d'abord, mais heureux de pouvoir transmettre sa passion à des amateurs. Cet aspect du métier implique une conception différente de l'apprentissage que dans les formations professionnelles.
L'idée dans une formation amateur, c'est de faire découvrir le théâtre, d'y toucher un peu, et puis pousser à la curiosité, les gens. Qu'ils aient envie de faire ou d'aller voir du théâtre.
Au Théo Théâtre, L'atelier nommé Bonimenteur offre aux élèves la possibilité de se produire 5 soirs de suite sur scène devant un public qui a acheté sa place.
Les élèves ont cette chance de pouvoir justement avoir cette expérience-là, de jouer une semaine avec toute l'intensité, toute l'excitation et la fatigue aussi. Je trouve que c'est une très très bonne expérience de plateau en tant que comédien, même amateur.
Et quand Pascal fait face à de jeunes talents en herbe, il les repère tout de suite. Il les forme quelque temps, parfois plusieurs années, leur inculque les bases, leur ouvre les yeux, mais ne peut pas faire grand-chose de plus.
Dans le cas de Stéphane Crépon, donc, qui a commencé au théâtre, il a fait après, il a suivi le cours Florent, puis il est entré au Conservatoire National d'Art Dramatique. C'était clair que même à 13 ans, quand j'ai eu la première année, il avait quelque chose en plus, c'était instinctif. Par contre, c'était un fainéant. Et la première année, mais parce qu'il avait du talent déjà, donc il bossait moins. Et en fait, je pense qu'on lui a appris qu'il fallait bosser. Et après, surtout, on lui a dit, il ne faut pas que tu restes. On ne peut plus rien t'apporter, pas dans le cadre d'un atelier amateur. Et c'est un bosseur maintenant, un gros bosseur même.
Si vous cherchez donc un point de départ, une porte d'entrée vers l'apprentissage du métier de comédien, n'hésitez plus à explorer votre quartier. Peut-être y a-t-il un atelier amateur qui vous permettra de vous familiariser avec la pratique théâtrale.
Merci Léonard. Ça y est, c'est déjà la fin de notre émission. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous souhaite une très bonne continuation. Merci à nos talentueux journalistes de nous avoir éclairés sur l'apprentissage du métier de comédien. Et merci à Catherine Portalupi d'avoir supervisé ce projet. Il est temps de rendre l'antenne. Merci, bonne journée à l'écoute de Radio Agora.
Vous êtes à l'écoute de Radio Agora.